L'âge bête sur RCN.
Bonjour à tous, il est 14h, soyez les bienvenus sur RCN, nous sommes le 3 avril. Bonjour tout le monde.
Salut.
Comment ça va?
Ça va.
Bien et toi?
On est déjà au mois d'avril, ça passe vite. Alors qu'est-ce qu'on a au programme de cette émission? On va avoir ta chronique histoire, Clément, comme d'habitude. Quelles sont les thématiques aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, surtout culture chinoise. Puis on va repartir, on va sortir un peu de l'histoire, on va repartir sur l'ère des dinosaures et puis après la course à l'espace.
Ah oui, vraiment très
éloigné.
Naïm, ton artiste musical aujourd'hui?
C'est Rilo.
Et c'est un peu quel style?
Oula, je sais pas, me demande pas, c'est compliqué.
Très compliqué, bon on en reparle dans un instant. Jasmine, enfin de retour.
Oui,
c'est vrai qu'entre les vacances, t'étais absente, malade.
Tout ça.
Enfin,
moi, je vais
t'es revenu.
Parler d'Arcane, donc une série inspirée de League of Legends.
D'accord, ok, bah, ce sera donc avant la fin de l'émission. Merci d'écouter RCN, merci d'écouter l'âge bête, nous sommes ensemble jusqu'à 14h30.
RCN, l'âge bête.
Clément, comme d'habitude, on parle histoire avec toi pour débuter cette émission, et tu commences par nous parler du dragon chinois.
Ouais, donc comme d'habitude, hein, première anecdote, c'est la légende donc de l'emblème de la Chine. Est-ce que vous savez pourquoi le dragon s'en est l'emblème?
Ah, aucune idée.
Parce que c'est un animal légendaire. Il n'existe pas.
C'est d'avenir, justement, comme tu disais, d'une légende. Hein,
c'est ça. Moment. Donc, en fait, pour commencer, le dragon, il a longtemps été le symbole de la puissance de l'empereur chinois. Et il représente l'énergie, la puissance, tout simplement. Aujourd'hui, on parle de ce pays. Quand on parle de ce pays, on peut encore penser à cet emblème. Et ce dragon, il a notamment 9 attributs. Une tête de chameau, des cornes de cerf, des yeux de lièvre, des oreilles de taureau, un cou d'iguane, le ventre d'une grenouille, le barbillon d'une carpe, les pattes d'un tigre et les serres d'un aigle.
Vraiment, on a tout mélangé là.
C'est ça,
tous les animaux.
C'est plusieurs animaux en un seul qui forment un dragon. Le nombre de griffes que possède le dragon, il va indiquer aussi le rang du dragon et donc de la personne qui va porter ce dragon parmi la société. Par exemple, sur la toge de l'empereur, on a un dragon à 5 griffes. D'ailleurs, l'empereur, c'est le seul à pouvoir porter un dragon à 5 griffes. Si on a un dragon à une seule griffe, bah, on est dans les masses populaires. Et plus on monte, et bah, plus on a de griffes sur notre dragon. Donc les dragons chinois, ils gouvernent aussi donc, les eaux. Ils jouent un rôle avec les astres. Et aussi dans l'agriculture. Ils sont symboles de fertilité et du cycle de la végétation. Alors, c'est la plante qui pousse, l'eau qui tombe. Enfin, je vais pas faire un schéma.
Oui, c'est le cycle de la vie.
De la vie, de la végétation.
De la végétation.
Et en fait, le dragon, c'est donc l'emblème aussi d'autres pays asiatiques. Alors, on a la Corée, hein, on va l'appeler le Yong. En Japon, c'est le Ryu. Au Vietnam, c'est le Rong. Et en Chine, donc, c'est le Long. Bah, c'est toujours la traduction de dragon, en fait. Hein.
Oui, d'accord. Mais donc, c'est le même emblème décliné plusieurs
c'est
fois.
C'est pas exactement le même dragon, mais les pays asiatiques, là, vont prendre un dragon. En fait, c'est aussi un peu la tradition des empires asiatiques.
D'accord.
Et donc, voilà, c'est décliné dans toutes les langues. On va pouvoir passer à la deuxième anecdote tout de suite. C'est sur l'extinction des dinosaures. Mais est-ce que vous savez pourquoi cette disparition?
Bah, la météorite, la pluie acide et tout, non?
Ouais.
Ouais, moi je serais parti sur la météorite, toi aussi.
Oui, Naïm. Je crois. Il y a une histoire de volcan aussi, peut-être, non?
Alors, on va voir ça. Pour resituer, les dinosaures, ils ont vécu pendant beaucoup de millions d'années quand même. Et ils seraient apparus il y a environ 250 millions d'années. Autant dire que, de toute façon, sur les estimations, on n'est plus à quelques millénaires près. On estime qu'ils ont disparu il y a 66 millions d'années. C'était pas hier.
Oui.
La théorie la plus probable de cette disparition, c'est l'impact donc d'un astéroïde qui ne peut pas, qui ne peut être que naturel à cette époque-là, hein, parce qu'on va pas encore envoyer des astéroïdes artificiels dans l'espace.
Oui.
Et ça s'est produit sur la péninsule du Yucatan au Mexique. J'en avais déjà parlé une fois. C'était sur les pyramides.
Exactement. Bah, c'était il y a 2 semaines. Ouais.
Il y a 2 semaines, puis j'avais fait une chronique sur Tenochtitlan aussi.
C'est vrai.
Cette météorite, elle a détruit 75% des êtres vivants sur Terre à ce moment-là, dont les dinosaures, sauf certains qui se réfugient dans la Terre, hein, par exemple l'ancêtre du crocodile, de la grenouille, des machins comme ça, ont survécu. Ça, c'est signe de l'importance du choc, et ça a notamment laissé un trou béant de 12 km de diamètre quand même au Yucatan. C'est un nom imprononçable, donc je ne vais pas m'essayer à le prononcer. Et en fait, l'astre, il aurait complètement percuté une poudrière pétrolière naturelle. Et selon donc des études menées en 2017, bon, je vais vous passer peut-être le rapport, la thèse, c'est très très long à lire.
Oui, j'imagine.
Et, en fait, la suie s'est répandue suite à cette explosion dans l'atmosphère, et ça aurait d'une rendu l'atmosphère complètement irrespirable, et ça aurait causé un fort refroidissement climatique. Donc ça empêche en fait les rayons du soleil, la chaleur, de transpercer l'atmosphère, de se répandre sur Terre. Donc en fait ça amène à des températures moyennes sur Terre aux alentours de moins 10 degrés.
Ah oui, ça, c'est très froid en effet, là c'est aujourd'hui vrai, on se plaint peut-être de...
pas terrible.
Du temps. Mais...
Et en fait il faut savoir aussi que les dinosaures ils ont eu très peu de chance dans leur malheur, c'est le cas de le dire, puisque en fait seuls 13% de la Terre est recouverte de roches qui peuvent libérer autant de suie que là où c'est tombé.
D'accord.
Donc en fait, il y avait un dixième de chance que ça tombe sur de la roche comme ça et que ça fasse ce résultat-là. Pour les physiciens qui nous écoutent, il y a eu environ 1,7 milliard de tonnes de particules fines de carbone rejetées dans l'air et 325 milliards de tonnes de soufre qui ont été libérées par les réactions à la suite de l'explosion. Donc c'est quand même assez important.
Oui, même si on ne sait pas ce que ça représente, c'est des gros chiffres. Oui, donc voilà.
Quand c'est trop, c'est trop. On termine par la dernière anecdote.
Allez, Martin. C'est parti, on revient vraiment dans donc, l'époque moderne.
C'est ça, l'histoire maintenant. Hein. Apollo 13, est-ce que vous connaissez la particularité du vol de la mission Apollo 13?
Donc c'est...
Non.
Ben si, non, mais c'est la mission. Tu me fous le doute quand même, mais c'est la mission qui a permis d'amener les premiers hommes sur la Lune.
Tu penses? Ça, c'est Apollo 11, Martin.
C'est Apollo 11, voilà. 13, bah, c'est... Mais est-ce qu'ils en ont fait beaucoup au-delà?
Donc après, on a eu Apollo 12, qui a, oui. été, enfin, qui a essayé de suite. Ramener des hommes sur la Lune. Et après, comme
si, c'est
je
celle
sais
qui
compter,
a explosé, non?
Non, c'est... toujours pas.
Toujours
et après,
pas.
Apollo 13, donc c'est la troisième mission qui a pour but de faire atterrir un module sur la Lune. Et il y a eu quelques problèmes. Je vais passer à tous les détails des plans de vol, etc. Parce que c'est encore une fois trop long. Et le décollage, il a lieu le 11 avril 1970. Déjà là, il y a plusieurs problèmes. Hein. Le moteur central s'éteint trop tôt. Le lanceur a été frappé deux fois par la foudre. Mais pour l'instant, la fusée est encore en orbite sur sa trajectoire normale. 56 heures après le décollage seulement, les problèmes vont commencer. Enfin, les nouveaux problèmes vont recommencer.
Oui, c'est ça, deuxième salve.
Le déclenchement en fait, d'un ventilateur qui est censé brasser l'oxygène du réservoir numéro 2 va tout simplement exploser dans la fusée. Mais il n'y a que le réservoir d'oxygène qui va exploser. Donc en fait, la fusée
va continuer pour l'instant.
Va continuer de voler. Hein, et les astronautes, encore, sont sains et saufs. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que peut-être que vous connaissez cette phrase qui a été prononcée. Mais OK, Houston, we've had a problem here. Hein, donc si
oh,
je traduis,
non mais je ne dirai rien sur l'accent
ouais, non, mais...
anglais.
Donc si je traduis, Houston, on a eu un problème ici, hein, pour les non-anglophones qui écoutent comme moi par exemple. Donc sur Terre, les scientifiques se rendent compte de la gravité de la situation, mais l'équipage à bord du vaisseau, pour eux, tout va bien se passer encore. On va pouvoir aller sur la Lune, on va pouvoir faire notre mission comme c'était
D'accord,
prévu avant,
ouais.
et on revient ensuite. En réalité. C'est tout le système électrique qui va dysfonctionner et le niveau d'oxygène, lui, il va chuter très rapidement. Par exemple, il y a un des membres de l'équipage qui va se pencher vers le hublot et qui va voir l'oxygène liquide s'échapper complètement de la fusée.
Ah oui, donc là, ça devient critique quand même.
Là, le problème est problématique, par exemple. Et donc, la décision est prise de prendre le module lunaire pour sauver la vie de l'équipage. Et on prend aussi celle de survoler la Lune. Donc en fait, on va faire un tour de la Lune pour revenir sur Terre avec l'inertie.
D'accord.
Un petit rond-point.
C'est ça, un petit. Parce qu'en fait, si on avait essayé de décrocher le module lunaire de la fusée, il aurait fallu encore faire des explosions et ça aurait été un peu critique, sachant qu'il y a de l'oxygène qui se balade, etc.
D'accord, donc là, oui, c'était la solution d'urgence.
Et donc la trajectoire, elle est ensuite sans cesse modifiée, remodifiée et encore remodifiée, puisqu'une poussée, en fait, est exercée par une nouvelle fuite d'eau du système de refroidissement.
Décidément.
Dans ce même module lunaire. Et lorsqu'ils font leur entrée dans l'atmosphère, déjà, ils n'ont pas forcément le meilleur angle, donc ils ont failli rebondir sur l'atmosphère pour repartir dans l'espace, encore une fois. Et quand ils ont enfin amerri, il leur restait plus que 4h30 d'électricité, 5h30 d'eau, donc autant dire que s'ils avaient rebondi, c'était fini.
Ouais, ouais, ouais.
Enfin bref, c'est une mission qui aurait pu tourner au désastre, hein, mais les scientifiques de la NASA ont géré.
Donc ils sont tous revenus sains et saufs.
C'est ça.
C'est vrai qu'en général, quand il y a un souci, quand ça commence à s'accumuler, c'est comme voilà. Ça, t'as l'impression que ça ne s'arrête jamais. Merci Clément pour cette chronique histoire. Désormais à 14h10 sur RCN, place à la musique avec toi Naïm. Tu nous parles de l'artiste Rilo.
Rilo, oui. Rilo. Je sais pas comment ça se prononce exactement, mais je dirais plutôt Rilo. Donc c'est un jeune chanteur, rappeur et producteur français qui a commencé à publier sa musique sur Spotify en 2018. À partir de là, il poste très fréquemment des singles jusqu'en 2021. Et c'est cette année qu'il sort son premier album intitulé SCA. Mais ce n'est pas cet album qui va vraiment marquer cette année pour lui. En effet, quelques mois avant, il a sorti un morceau qui s'appelle C'est ma shit partie 2. Et qui est encore aujourd'hui son morceau le plus populaire. Alors ça ne veut pas dire que c'est extrêmement populaire ou connu, hein, mais plus que les autres. Donc c'est d'ailleurs devenu un des morceaux iconiques de la scène que vous commencez à connaître, hyper pop.
Exactement.
Et on peut en écouter un extrait tout de suite. Alors on retrouve déjà dans ce morceau beaucoup des caractéristiques classiques d'un morceau de Rilo, notamment au niveau de la voix. Donc en général, il utilise plutôt comme si c'était un instrument parmi les autres sans forcément y donner un rôle central. Donc il utilise notamment beaucoup de VST, donc en l'occurrence des effets qui modifient la voix, ce qui fait que le résultat final n'est pas tellement proche d'une voix humaine au final, mais plus d'un instrument électronique. Et c'est de faire chercher, puisque Rilo cherche avant tout à créer des sonorités originales, et ce au détriment du reste parfois. Donc par exemple, en général, les paroles, ça veut pas dire grand chose, ça a juste pour but de bien sonner musicalement. Donc,
oui,
donc c'est pas tellement la peine d'aller chercher les paroles, ça veut rien dire. Donc bon, on peut pour ça illustrer, on peut écouter un extrait du morceau Emotion. Donc bon, cette focalisation sur les sonorités, en réalité, elle se limite pas à la voix. Donc en effet, sur la plupart de ses morceaux, il s'accompagne de producteurs très talentueux. Et en général, il donne beaucoup d'importance à la production, puisqu'il y a souvent plus d'importance même que la voix dans les morceaux. Donc, pour donner un exemple, tout à l'heure, on a écouté un extrait de C'est ma shit. Et justement, pour un morceau qui dure que 2 minutes 10, il y a quand même 3 producteurs différents. À savoir Reckless Boys, Abel 31 et Simala.
Toujours Abel 31. Il revient toujours
Abel 31.
Il me hante. Il y a donc une volonté d'avoir une production à la fois très qualitative et originale, mais quand même expérimentale, pour essayer d'avoir des choses un peu nouvelles. Donc pour illustrer, on peut écouter un extrait, un nouvel extrait. De Rock Your Body par Rilo, Tony Seng, Jordan, Abel 31 et Villel. Donc on comprend pourquoi il y a 4 producteurs différents pour un morceau qui reste assez court. En fait, c'est une composition électronique assez complexe et en plus ça fait appel à des guitares électroniques et un violon. C'est quand même un ensemble assez original, faut le dire.
Enfin, oui, c'est vrai.
Pourquoi pas. Bon, bref, je pense que j'ai assez parlé. On peut écouter le morceau Le Monde de Rilo, Cowboy et Winter Zuko.
On s'écoute ça et puis dans un instant, on se fera le quiz de culture générale. Cette fois-ci, c'est moi qui m'y colle comme Elsa n'est pas là. Et on se retrouve pour la suite de l'émission dans un instant.
J'mets cette meuf comme un gaucher, j'te mets cette SV, j'te mets pas un crochet. J'sais que c'est fragile, mais j'sais pas pourquoi j'ai envie de m'accrocher. Là j'ai le marteau et j'ai de quoi faucher. J'en ai marre d'être pauvre, ça m'inspire un projet. J'me rappelle short des écoutes des fichas. Me pointer à leur soirée, j'ai même pas osé. Hein, on parlait de brûler le monde dernière fois qu'on s'est parlé. On se fait la guerre, pourtant on sait qu'on est des alliés. J'suis triste sous la pluie, c'est la même sous les palmiers. Sans ma tête que je vais me donner, même si je suis pas sûr qu'on va gagner. 5 mais pas tous les ballons dans le même panier. Sur la chaise là j'ai fait du le sac comme Xavier. Dominator c'est l'étal, tu sais le manier. Faut que je quitte HLM avant de devenir vous allié. Je suis le cheval qui boite sur lequel il faut parier. Je clique sur ton nom pour la dernière fois. Mais c'est ce que je me dis, c'est déjà la dernière fois.
Yeah.
L'âge bête sur RCN.
Il est 14h15 sur RCN. Merci d'écouter L'âge bête. On vient de se faire la chronique histoire. Et donc, on vient d'écouter le morceau Le Monde de Rilo, qui nous était présenté par Naïm il y a quelques minutes. Et désormais, c'est l'heure de faire le grand quiz de culture générale. Alors, c'est pas Elsa aujourd'hui, c'est moi. Ça faisait quelques semaines que je n'avais pas fait. On va commencer avec une question littérature. En quelle année, je vais vous embêter un peu avec les années aujourd'hui, en quelle année a été publié le premier album de Tintin?
Oh, en 1961, ou c'est un truc comme ça, je crois, non?
Peut-être un peu plus tôt,
non? Non, c'est bien plus ancien.
Ah oui, c'est 1937, dit... alors?
Non, c'est plus ancien.
Non, mais en fait, tu fais exprès avec les années.
Mais c'est, en fait, laisse Naïm parler, en fait.
1920?
Non, quasiment, c'est 1919. Donc, c'était Tintin au pays des soviets. Mais c'est bien avant, parce que tu parlais de la conquête spatiale. L'album sur Tintin sur la Lune était sorti 5 ou 10 ans, même, je crois, 10 ans avant... La vraie conquête, et c'est vrai que les scientifiques disaient que c'était assez vrai, tout ce qu'il avait dessiné, c'était assez proche de, même au niveau des plans de comment tu vois la Terre depuis la Lune, tout ça, c'est des choses assez, assez réalistes pour l'époque. Alors, une autre question qui n'a rien à voir, on part en Amérique, on va parler politique. Qui occupait le poste de vice-président des États-Unis d'Amérique lors de la présidence de Barack Obama?
C'est Joe Biden.
Et oui, c'était Joe Biden, il était déjà là. Mais ça, je ne le savais pas, je l'ai redécouvert il n'y a pas longtemps.
Bon, avec toute sa tête, mais...
Peut-être à l'époque, c'était plus simple qu'aujourd'hui. Une autre question, vocabulaire. Comment nomme-t-on un mot qui peut se lire dans les deux sens?
Un palindrome.
Exactement, une bonne réponse pour Jasmine. On va partir en histoire. Pour toi, Clément, quelle est la date? Je t'en demande une date, mais celle-là, je pense que ça devrait aller. Du célèbre couronnement de Napoléon Ier.
C'est 1804.
Oui.
Et ouais. C'est le 4 décembre, non?
2 décembre, ouais, t'es pas loin.
Oh,
2 décembre, je pensais te piéger là-dessus, mais bon, là, ça va. On part dans le sport désormais. Combien de joueurs sur le terrain est composée une équipe de handball?
C'est pas 7 ou un truc comme ça?
Je devrais savoir, mais je sais pas.
Alors,
si c'est 7, je crois.
C'est 7?
Ouais.
T'as fait du hand, non?
Oui, j'en ai fait. J'étais gardien, je jouais pas sur le terrain, je sais pas.
Tout va bien, alors.
Donc, c'est 7 en comptant le gardien. un autre question qui n'a rien à voir. Quels fruits sont appelés par les Suisses francophones raisinets?
Le myrtille ou le raisin?
Non.
Ou...
Les prunes?
Toi qui as des origines suisses, je me suis dit c'est pour toi aussi.
Bah, je sais pas. La pêche?
Non.
Les abricots?
Raisinés. Alors, il faut réfléchir vraiment le fait que tu pourrais prendre un raisin et le réduire de taille, ça paraît pas incohérent.
Un groseille?
Une groseille. Effectivement, oui. Donc, le raisiné est une groseille.
Bon, j'étais pas loin avec les myrtilles au
début. Chez les Suisses francophones. À nouveau, une question vocabulaire. Que signifie polydactyle?
Poly plusieurs.
Ouais.
Oui,
dactyle,
c'est bien.
C'est qui vole, non? Ou...
Dactyle, non.
Zérodactyle? Je sais pas.
Non, rien à... non,
c'est l'écriture dactyle.
C'est l'écriture.
Alors, plusieurs écritures.
Non.
Tu écris des deux mains.
Non, ça non. C'est ambidextre.
C'est sûr. Oh. C'est en effet sur les mains.
T'as plusieurs doigts.
T'as plusieurs empreintes digitales.
Justement, plusieurs doigts, mais combien?
Trois?
Non,
quatre.
C'est justement le fait d'en avoir plus que cinq. Fait...
D'accord.
Polydactyle, ouais, c'est le fait d'avoir donc plus que cinq doigts. Et alors en 2010, c'est certainement un record, en tout cas c'est celui qu'on a en Inde, un enfant est né avec 14 doigts et 20 orteils.
Attends, voilà. Mais... C'est... Ah non, 14 doigts sur les deux mains.
Oui, j'imagine quand même.
Ça fait 7 et 7.
Ouais, mais 7 doigts.
Ah, ça fait beaucoup.
Par main.
Imagine, t'as une main, t'as 8 doigts, l'autre t'as 6. C'est
assez pratique, tu fais beaucoup de choses.
Mais
hein.
7 doigts.
Et
20 orteils, oui, c'est pareil. Là, je sais pas comment ça tient sur deux pieds.
Attends, mais les chaussures, c'est quoi?
Il a doublé en nombre d'orteils.
Ah oui,
c'est terrible.
Mais... Ah, je savais que celle-là, vous allez l'aimer. Allez, on va terminer avec de l'actu. Depuis quand est instauré, parce qu'on vient de passer, on va changer d'heure, c'était dans la nuit de samedi à dimanche. Depuis quand est instauré le changement d'heure?
Oh, c'est pas un truc avec l'Union Européenne ou un truc comme ça, ça?
Non, c'est un petit peu plus... C'est plus ancien que l'Union Européenne.
Bah, je sais pas.
C'est au 19e siècle?
Non,
c'est lié
après...
à un événement, justement, parce qu'on voulait réduire la consommation, notamment d'électricité à ce moment-là, mais pour quelle raison?
Pendant la guerre?
Non, c'est après la guerre.
Avec les centrales nucléaires ou peut-être un...
Je vais vous donner les dates autour de 73-74.
Et je peux te dire que c'est en 73-74.
C'est bien, mais c'était lié au choc pétrolier. Donc à ce moment-là, les prix ont flambé, donc on a décidé de... Alors par contre, j'ai quand même appris que ce changement d'heure avait fait réduire en réalité 0,007% de la consommation.
Ah, ça a été efficace.
C'est pour ça qu'aujourd'hui, on aimerait en tout cas, l'Union Européenne avait pensé à un moment le retirer, mais pour l'instant, ça pose ça fait débat parce que l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest est très éloignée et sur un seul fuseau horaire, aujourd'hui c'est un petit peu compliqué d'instaurer donc une heure pour tout le monde. Mais au début, le changement, donc ça c'était en France, mais en fait c'est depuis seulement 98 que les dates du changement d'heure ont été harmonisées, c'est-à-dire que tout le monde ne changeait pas d'heure forcément le même jour. Ça je le savais pas, mais ça devait donner quand même des choses assez incohérentes. Voilà.
Tu passes la frontière allemande, bah t'as une heure
de retard.
Oui, non, mais c'est vrai.
Bah, tiens, je suis passé en heure d'hiver aujourd'hui.
Non, mais c'est vrai, le fait. Je pensais que c'était harmonisé, mais pas du tout. Au début, c'était pas harmonisé. Et donc là, c'est sous l'Union européenne que ça a été harmonisé. Bah voilà pour ce quiz. Qui a gagné? Oh, c'était assez partagé là.
On a tous gagné.
Voilà. Allez, dans un instant, justement, Jasmine, tu nous parles d'un jeu vidéo. Ce sera un jeu Arkane. Ce sera dans
c'est
un instant.
C'est pas un jeu, c'est une série.
Une série, excuse-moi.
Martin, voyons, non, mais instant. N'importe quoi, Martin!
Sur RCN.
14h23 depuis le lycée Marquet où nous enregistrons cette émission L'âge bête depuis novembre avec toute l'équipe qui m'accompagne, Naïm, Clément et Jasmine. Et puis pour terminer cette émission, on a l'habitude d'avoir ta chronique pop culture, ça faisait longtemps.
Ouais, on a un peu perdu l'habitude.
On a eu un remplaçant quand même la semaine dernière, Alexandre, qui nous a fait une très belle chronique aussi.
Tout à fait.
Donc désormais c'est à toi, on ne parle pas d'un jeu vidéo,
non,
comme
j'ai
annoncé
série.
Tout à l'heure, d'une série, c'est la série Arkane.
Tout à fait, alors Arkane c'est une série inspirée d'un jeu vidéo, donc... Pour ta défense, ça va, c'est pas si grave. Donc, c'est une série qui est inspirée des personnages de League of Legends. Alors, je ne suis personnellement pas adepte de ce jeu, mais la série est excellente et elle retrace le lore. Donc, le lore, c'est l'histoire des personnages, mais qui ne constitue pas l'intrigue principale du jeu. Donc, par exemple, ce qu'ils étaient avant, etc., comment ils en sont arrivés au stade où ils en sont. Et donc, League of Legends, c'est un jeu team-based, donc on joue en équipe, free-to-play, donc gratuit, produit par Riot Games, qui ont également créé le jeu de tir Valorant, si jamais vous connaissez, qui n'est pas non plus un jeu duquel je suis adepte, qui est un FPS. Donc, Arkane, c'est une série qui est disponible sur Netflix en ce moment, qui est sortie en 2021, qui a été produite par Riot Games en collaboration avec un studio français, qui s'appelle le studio Fortiche. Super nom.
Oui, je ne connaissais pas non plus, ok.
Donc, ils ont mis 6 ans à produire la première saison. L'animation est magnifique, vraiment. Je vous conseille vivement de regarder si vous êtes adepte de ce genre d'image. C'est super beau. C'est un style très particulier, mais honnêtement, je trouve ça absolument magnifique. Et avec les musiques, tous les jeux de musique et d'image en même temps sont super bien faits. La colorimétrie est harmonieuse. Enfin, tout est très beau. on va recevoir, on est enfin très content parce qu'elle est sortie il y a 3 ans et la saison 2 arrive en novembre 2024.
Ah oui, un petit
donc
un petit
temps ils ont mis 3 ans déjà à produire une deuxième saison, donc c'est long. Mais on est tous très contents quand même. Parce que personnellement, cette série, je l'ai vue en un jour. Parce que voilà, elle est très bien.
Ah oui, quand même.
Ouais.
Elle est longue d'épisodes.
Elle fait 9 épisodes, je crois, d'une trentaine de minutes. Donc ça va, c'est
ah oui, ça
en
va
un jour.
Attends, en un jour.
Alors 9 x 3, 27, 270 minutes. Si Alan était là, il nous ferait le calcul en heure, mais je suis pas Alan.
Non, mais ça fait 4h30, hein, t'embête pas. Hein.
Ah ouais.
Ça oui, va, bah... sur une journée, ça va.
Je vais aller m'enterrer, moi.
Les dates et les calculs, vraiment, c'est les chiffres, Clément, faut arrêter.
Ouais, c'est pas ton truc. Du coup, je vais vous faire plus ou moins un petit synopsis, mais après, c'est difficile de pas spoiler, donc je vais essayer de
d'accord,
faire attention.
Ouais.
En gros, ça retrace l'histoire de deux... Il y a différents endroits dans League of Legends, il y a 9 planètes, entre guillemets,
d'accord.
Et là, c'en est qu'une, qui est composée de Lunder City, donc... plus ou moins la ville des pauvres, hein, si je dois le dire de façon crue, et la ville de la technologie où vivent donc les gens plus aisés, plus riches.
Et donc ça, c'est de façon cuite. Si l'autre était de façon crue.
C'est insupportable. Il n'avait pas sorti de vanne encore, mais là, ça y est.
Il n'avait pas encore calé, ça y est. Et donc, bah, voilà, ça retrace plus ou moins le combat entre les deux, avec les forces armées de la ville riche et les pauvres qui se battent pour plus ou moins survivre avec des petites histoires de drogue, etc. Enfin, c'est compliqué. Mais c'est justement ça que je trouve intéressant. C'est une série qui a énormément de profondeur et qui parle de vrais problèmes, de vrais sujets. Et du coup, elle est vraiment super intéressante. Et les relations entre les personnages sont vraiment très bien pensées, du passé jusqu'à leur présent. Et je la trouve vachement intéressante et je vous la conseille vivement.
Donc la deuxième saison sort
en
novembre d'accord,
de
bon,
cette
bah,
année.
Pour ceux qui n'ont pas vu la première...
Regardez-la.
Je pense que c'est le meilleur conseil qu'on puisse donner.
Tout à fait.
Voilà. Bah, merci beaucoup, Jasmine, de nous avoir parlé donc, de
Mais
cette série.
Avec
la sortie,
joie.
La série Arcane. Bah voilà, ça y est, on est déjà au bout de cette émission.
C'est fantastique.
Mais oui, formidable. Il est 14h28 quasiment sur RCN. La semaine prochaine, qu'est-ce qu'on aura au programme de l'émission? On aura la chronique d'Otini. On parlera Lorraine. On parlera également environnement avec Margot. On aura Justin pour le quiz de culture générale. Et puis donc Alan pour l'énigme. Voilà, ça c'est le programme de la semaine prochaine. Merci à tous ceux qui préparent et réalisent cette émission. Évidemment les chroniqueurs tout d'abord, hein, parce que c'est eux qui font le boulot aussi. Du côté donc du lycée, merci à Adam, notamment à la programmation aussi, et puis à la technique aussi qui nous aide à mettre en place tout ça. Du côté d'Hersen, merci à Jean-Luc et à Thomas à la programmation de cette émission. On enregistre donc, je le rappelle, toujours cette émission depuis le lycée Marquette. On sera de nouveau au lycée Marquette la semaine prochaine. Bah voilà, c'est bon, on a tout dit. On va passer une très belle après-midi à l'écoute d'Hersen. Salut tout le monde.
Salut.
Salut.